La chronique dans ce temps-là avec Philippe Basque, une invitation du village historique acadien.
Et on va parler ce matin du 150e anniversaire de la paroisse de Saint-Isidore. Philippe, bonjour.
Bonjour Claude.
Vous avez sûrement des anecdotes à nous conter à un moment donné là, de ce qui s'est passé depuis les 150 dernières années.
Oui, ben c'est surtout dans la décennie ou dans les années que ça a été fondé, dans les années 1870. Et puis, Saint-Isidore, je devais en parler deux, trois semaines passées, mais à la fin, on a manqué de temps. Fait que cet été, ils vont probablement faire des activités. Je sais que le musée organise toujours des activités, quelque chose pour rapport à la paroisse aussi. C'est la paroisse religieuse qu'on fête cette année, tandis que le village, lui, dans le fond, on pourrait fêter Saint-Isidore pendant quelques années. Ça fait le 150e l'année passée, le 150e cette année, le 150e l'année prochaine, parce que on est en plein dans le développement de ces régions-là, que ce soit Paquetteville, c'est l'année passée. Cette année, c'est Saint-Isidore. Fait qu'on fait différentes choses aussi dans le reste de la province aussi. Cette année.
Comment est né Saint-Isidore?
Fait, dans les années 1870, au début, on avait fait la loi de la Free Grant Act, qu'on appelle qui est comme la loi des terres gratuites. Là. Je pense qu'on avait parlé d'une chronique en 2022. Puis, quand ils ont adopté cette loi-là, ça donnait l'opportunité des gens de partout au Nouveau-Brunswick, mais même d'ailleurs, d'appliquer pour une terre de 100 acres puis de l'obtenir gratuitement. Auparavant, il fallait payer 20$, puis 20$, c'était beaucoup trop cher pour le temps. Fait que le gouvernement décide que si tu veux appliquer pour une terre, il va falloir que tu fasses des travaux pendant un certain nombre d'étés, parce que des fois, la maison qu'on construisait n'était pas faite pour passer l'hiver dedans. Souvent, c'est des maisons en bois rond, une petite maison 16 par 20. Et aujourd'hui, 16 par 20, c'est comme la cuisine là, le salon. Là. Mais dans ce temps-là, la maison en bois rond, c'était une cabane, aussi bien dire. Mais c'était au moins construire quelque chose qui allait être permanent sur ce lopin de terre-là, qui permettait de l'obtenir gratuitement. Il fallait labourer la terre aussi, puis obtenir du défrichage, puis de la terre en culture. Il fallait planter des choses. Donc, on faisait ça pendant quelques étés. Puis des fois, si on était vaillant, puis si on était capable de passer l'hiver, on passait l'hiver sur le terrain. Fait que là, on allait obtenir les terres gratuitement. Et puis ça a commencé en 1812, 1813. Là, il y a une première gang vraiment qui y va pour faire du défrichage, puis planter des choses, puis s'installer là. Fait qu'on commence vous connaissez la région Saint-Isidore, on commence plus par Bois-Hébert à peu près, là. Puis là, on décolle par le haut de la paroisse. Fait que c'est tout divisé, ça. Bien rectangulaire, tous des lots de 100 acres, tout mesuré, tout égal. Parce qu'il y a certaines paroisses à travers la province que c'est plus ou moins égal. Des fois, c'est des longues stretches de terrain. Fait que là, c'était vraiment, parfait, là, 100 acres de terre. Puis, on pouvait appliquer des fois pour 100 acres. Des fois, si on avait des fils qui avaient 19, 20 ans, on pouvait appliquer pour 200 acres. Fait qu'on faisait deux lots bout à bout. Fait que là, ça donnait un gros lopin de terre, dans le fond, pour le père puis le fils pour bardasser là-dedans. Puis en 1813, les premiers arrivent. Et puis en 1814, 1815, 1816, l'abbé Louis Gagnon, qui est vrai comme le pionnier de tout ça, comme le leader, lui est curé à Chipagan. Puis c'est vraiment un homme de son temps, là, un prêtre typique de ce temps-là, qui en 1813, l'évêque avait soit fait une conférence ou envoyé une lettre pour promouvoir le mouvement de la colonisation dans la forêt comme ça, à partir de rien, là. Puis lui, il a pris ça au pied de la lettre, puis il a dit « Moi, j'y vais à Saint-Isidore. » Puis lui, à Chipagan, il avait vu que les pêcheurs de ce coin-là, c'est sur l'île Lamèque, à Chipagan, je sais qu'il y a des familles de Saint-Marie-Saint-Raphaël qui sont venues aussi dans ce coin-là, avaient de la difficulté économiquement avec la pêche, puis les compagnies de pêche qui payaient juste en piton, en jeton. Des fois, ils les tenaient toujours endettés. Alors, un des moyens qu'on avait trouvé à cette époque-là, dans les années 1870, c'était d'aller sur des terres comme ça, là, se lancer vraiment dans la forêt avec les maringouins, puis avec tout ce que ça pouvait être. Beaucoup de travaux difficiles, là, c'est coupé, c'est pas coupé à la scie mécanique, puis à les grosses machineries, c'est vraiment à la scie, puis à la sciotte, puis à la hache, puis couper les branches, puis c'est défricher la terre, c'est ça aussi, c'est pas évident, faut se rendre là. Alors c'était tout un exploit, là. Puis lui-même aussi a appliqué pour des terres, fait qu'il va appliquer pour deux lopins de terre, puis il va... Lui est originaire de Trois-Pistoles au Québec. Lui va faire venir des gens de ce coin-là. Ah. Puis il y a du monde de la parenté. Il va aussi, quand il est à Chipagan, il va avoir comme des gens qui travaillent pour lui, des jeunes gars qui comme prend sous son aile. Je pense à des Haché, puis à des Robichaud. Il va inviter ces gens-là à venir s'établir à Saint-Isidore pour avoir des terres, qui va devenir les gens qui sont là encore aujourd'hui, les descendants, 150 ans plus tard. Mais lui a fait ça un peu, je dirais pas à la cachette, là, mais il a décollé, lui, sans l'autorisation de son évêque. Là.
Ah, oui?
Quand il faisait la paroisse, c'était correct, là, l'évêque approuvait ça. Puis en 1875, il va faire une paroisse. Puis ça, c'est venu de rien. Avant, là, quand tu fais une paroisse, on appelle ça une mission. Puis là, la mission, ils construisent une chapelle. Puis là, après ça, ben, après un bout de temps, là, ils vont construire une église. Puis là, ça devient une paroisse.
Lui, il a contourné les règlements. Ah,
ben, lui, il a commencé une paroisse direct en startant même. Puis Louis Haché qui a fait de l'histoire, là, ou le père Gautreau qui a fait l'histoire de Saint-Isidore. On pense que la première fois dans la région ici, on nomme une place Saint quelque chose, là, comme c'était Saint-Irénée, Saint-Isidore, mais ça, c'était comme la première. Quand on dit qu'au Québec, ça se faisait beaucoup, là. Puis Saint-Isidore, c'est le patron des laboureurs. Fait que lui, c'est labourer la terre. Puis
Est-ce qu'on sait si l'évêque était fâché ou si c'est finalement...
Alors, en l'année suivante, en 1816, lui décide du jour au lendemain de quitter Chipagan sans avertir personne. Fait que lui, dans le fond, son patron, son boss, là, c'est l'évêque. Là. Oui. Là, il n'avertit pas son évêque.
Aïe, aïe.
Il s'en va de là, lui. Fait qu'il faut qu'il abandonne les gens de Chipagan. Mais c'est un petit peu ça. T'sais, il décolle, lui, du jour au lendemain. Puis il dit, je m'en vais vivre, moi, dans ma paroisse. Fait que lui, le Roger, je ne me rappelle plus s'il a appris ça quand il était à Chatham ou qu'il est arrivé à Chipagan puis le père Gagnon n'était pas là. Parce qu'il cherchait. Là, les gens de Chipagan ont dit, ben, il est parti, lui, à Saint-Isidore. Chipagan, pour lui, c'est fini. Là. Il est parti là. Fait que l'évêque n'était pas trop content. Puis je pense que quand il est arrivé à Saint-Isidore, Gagnon, il s'est planté à broyer. Ou chose de même. Il me semble qu'il y a une description de scène. Là,
okay.
Que ça n'a pas bien été. Puis, mais lui, il bûchait dans le bois. Puis il avait la soutane ouverte. Puis il labourait. Puis il travaillait. Puis, c'était un gars qui était dans la forêt. Puis c'était pas quelqu'un qui C'était pas un intello, dans le fond, qui étudie la grande théologie ecclésiastique. Là. C'était un gars dans la forêt avec le monde. Puis finalement, Mgr Rogers va lui permettre de rester là à Saint-Isidore.
Ben, il voit que M. le curé travaille, puis qu'il est vaillant.
Oui,
alors,
oui.
Il va lui donner le OK.
Oui, il va lui donner le OK, puis il va le remplacer à, je sais pas quand, par quelqu'un d'autre, là, je sais pas ce qu'il est. Puis il va continuer. Puis lui, l'abbé Louis Gagnon va rester là tout le reste de sa vie. Là. Lui, il va prendre sa retraite dans l'entour de 1910. Là, il commence à être pas trop en forme. Puis il va décéder en 1917, puis enterré là, dans le cimetière là, à Saint-Isidore. Fait, dans les années 1870, ben, il faut faire beaucoup de choses. Cette année, c'est le 150e de la paroisse religieuse. Mais il fallait toujours construire une église. Et puis lui, ça avait construit une maison, puis un presbytère. Là. Fait qu'on a une photo de ça là, dans le vieux livre là, de la paroisse. Et puis lui construit son presbytère. Il va construire aussi l'église. Fait que l'église, elle prend un petit peu plus de temps à construire que juste dire on est dans une paroisse. Fait qu'il disait la messe, lui, dans sa maison en étendant. Et puis l'église va rouvrir en 1878.
Est-ce que c'est l'église originale qui est à Saint-Didard actuellement?
Non, c'est une petite église en bois qui va être l'autre bord du chemin. Fait que le monde qui passe par là, t'as l'église en pierre qui est là. Elle a été bâtie 1904. 1908, puis ils l'ont fini comme ça a pris du temps avant de finir cette église-là. C'était gros pour l'époque. Puis la petite église en bois aussi, ça a pris du temps. Je lisais, là, ça leur a pris une couple d'années avant de finir comme l'intérieur, puis tout ça. Là. Fait en planche, puis elle était de l'autre côté de la route. Là. Elle était comme dans le stationnement aujourd'hui. Puis le premier vieux cimetière de Saint-Isidore était là aussi. De ce côté-là du chemin. C'est pour ça que si tu passes à Saint-Isidore dans le stationnement, il y a quelques pierres tombales. Je pense qu'il y en a comme 3 ou 4 qui restent de cette époque-là, fin 1800. Et puis, il y a le cénotaphe qui est là. Donc, là, il y a comme... Il me semble que c'est entre 500 et 800 morts qui sont enterrés là. Peut-être un petit peu sous le parking, puis un petit peu dans la butte qui est là. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été inhumés là jusqu'à, je dirais, début 1910. Là, parce que toi, lui, Gagnon, il est enterré en arrière du cimetière. Dans le cimetière en arrière de l'église aujourd'hui, là, 1917. Fait qu'après ça, ils ont passé là. Puis quand lui s'est rempli, ils ont été à lui d'aujourd'hui, qui est comme un petit peu dans la forêt, là, en face de l'église paroissiale. Il y a beaucoup de choses qui bougent là, dans ces années-là, dans les années 1870, de la paroisse religieuse, mais aussi comme l'agriculture. Je lisais des chiffres comme en 1875, 150 ans passés. Il y a eu beaucoup de développement agricole, là, comme quand tu gardes les acres abattus, là, disons la première année qui ont vraiment été là du début jusqu'à la fin. Là. En 1874, il y avait 312 acres abattus, mais en 1875, l'année d'après, il y en avait au-dessus de 1000, 1122.
En agriculture,
même chose. Ouais, en culture, il y avait des choses qui poussaient dedans. Il y avait 37 orques la première année. Après ça, il y en avait 797. Enfin, c'est beaucoup. Les chevaux, ça ne change pas tellement. Les vaches, on passe de 7 vaches à 40 vaches. Les bœufs, hein, les bœufs, on avait beaucoup. Hein. On avait 3 bœufs la première année. Après ça, on avait 12. Les chevaux, on avait 3, puis on avait 13. Il y a autant de bœufs que de chevaux. Parce que le bœuf, longtemps passé, on travaillait avec ça, le bœuf.
Oui.
On attelait
les
affaires.
Pour labourer, oui.
Pour labourer, même pour se promener, quitter Chupagan, tout ça. Des moutons, on passe de 22 à 146. Les cochons, on passe de 36 à 141. Tu sais, ça fait beaucoup. Du blé, on faisait du pain avec du blé. Alors, 190 orques, j'imagine, à 571, ou peut-être en boisseau. C'est tout pour dire que ça développe beaucoup, là. Puis parmi les autres anecdotes là, que je me souviens, que j'ai lu, je ne devrais pas dire je m'en souviens, parce que je n'étais pas là. Mais il y avait eu aussi un mariage. Quand celui est parti du jour au lendemain, la vie continue à Chupagan, là. Puis, tu sais, il faut se marier, il faut faire les baptêmes, il faut faire les funérailles. Mais lui, il est parti du jour au lendemain, puis il n'a pas averti personne. Puis, il y avait un couple qui devait se marier. Et puis, ce couple-là, quand on se mariait au mois de... Je sais pas quand c'était, au mois de... Peut-être l'été. En tout cas, ils avaient tué un cochon. Et puis, dans ce temps-là, en 1875, 1876, quand tu tues un cochon, c'est toute une affaire, là. Puis, c'était probablement pas l'hiver, parce que l'hiver, ça aurait gelé. Alors, lui est parti, le cochon est tué, il faut cuire la nourriture. Le party est pogné, là, faut y aller, mais là, c'est le matin.
Il n'y a pas de mariage.
Le prêtre n'est pas là. Alors là, ce couple-là, ce pauvre couple-là, qui est un jeune couple là, dans la vingtaine, pas le choix d'atteler un bœuf, puis d'aller là-bas à Saint-Isidore, marcher là-bas là. C'est loin, le marche-dent de Saint-Chupagan.
Marier là-bas.
Fait quand ce qu'ils arrivent à Saint-Isidore, lui, il est en train de bûcher, puis il voit les couples, il est « Ah, mon Dieu, mes pauvres enfants, je vous ai oubliés. » Fait qu'il va les marier directement sur une bûche, directement là, dans le champ ou dans la forêt où ils sont en train de bûcher. Et il va les marier, puis après ça, le couple va décoller, va repartir de nouveau pour Chupagan le même jour. Puis on est rendu le soir, là, les gens commencent à s'inquiéter parce qu'ils ont décollé le matin. Okay. Puis là, c'est toute la journée au complet, parti. Il y a eu une grosse avarse. Ils ont été pognés dans l'avance, là, ils arrivent, finalement, ils vont pouvoir faire la fête, là, ils arrivent. Quand ils les ont vus arriver, le gars était assis tout seul dans la charrette, ils n'ont pas vu la fille, là, ils ont comme paniqué, qu'est-ce qui arrive à la fille, elle n'est pas là, puis finalement, elle était couchée dans la charrette en train de dormir. Ils sont mariés. Ouais. On a célébré ça plusieurs années passées, le musée de Saint-Isidore, puis on n'a pas pu trouver de descendants, là. Je pense qu'ils se sont remariés, puis ils ont quitté la région. C'était un couple, ça, qui s'était marié en 1875 ou en 1876, là, quand c'était en train de faire la paroisse.
Ben, merci beaucoup, Philippe. Puis ça va sûrement intéresser les gens de Saint-Isidore. Bon, on va surveiller les célébrations au cours des prochaines semaines. Merci.
De rien. À la prochaine.
Envie de prendre une marche, mais tanné de votre circuit habituel? Profitez de la saison des marcheurs du Village historique acadien. De la mi-septembre au mois de mars, le site historique est ouvert gratuitement aux marcheurs tous les jours de 8h à 16h, quand le temps le permet. Avant de partir, vérifiez l'état du sentier en visitant le www.facebook.com/villagehistoriqueacadien.com. Les chiens en laisse sont acceptés, tout comme les vélos. Bonne randonnée!